Enragé, enragé, je le suis. Longtemps j'en ai douté, mais je vois bien, hélas, que c'est la vérité. J'ai senti tout d'abord certaines inquiétudes, tu vagues dans l'esprit, du dégoût pour l'étude. Je sentais au gosier comme une âcre chaleur, je voulais boire, mais l'eau m'inspirait horreur. Je rêvais de plaisirs ténébreux et sinistres, embrasser un huissier, mordre dans des ministres. Convaincu de trouver en lui seul un sauveur, je confiai mon sort à l'illustre pasteur, qui depuis ce matin me traite comme un père, me soigne et m'inocule un virus salutaire. Mais je ne vais pas mieux. Tel que vous me voyez, je suis beaucoup plus mal que vous ne le pensez. J'ai toujours des terreurs, des fantômes, en un mot, de la rage. J'en ai tous les symptômes. Quel féroce animal, dit-il, vous a mordu? Une hyène? Un chacal? Non, non, c'est ma belle-mère. Oh, alors, mon ami, vous êtes perdu. Votre cas est trop grave, et je n'y puis rien faire. Comment donc vous advint cet affreux accident? Et je fis ce récit à l'illustre savant. À peine sortions-nous des portes de Vincennes, ma femme et sa maman sur le char 806, moi leur tournant le dos, près du cocher assis sur cocotte, ses mains laissées flotter les rênes. Nous avions fait sur l'herbe un frugal déjeuner et rentrions tous trois à Paris pour dîner. Belle maman portait au front quelques nuages. Un silence, précurseur des orages, me faisait pressentir un prochain ouragan. Le char numéroté roulait sur un volcan. Il fallait un motif pour exhaler sa bile. Ma cigarette en fut le prétexte futile.
La jolie habitude! Ah, pois, c'est une horreur! Quand vous êtes venu demander Camille, vous l'aviez bien caché, cet horrible défaut. Mais je ne me plais pas, maman,
disait ma femme.
Tu le dis, pauvre enfant. Mais au fond de ton âme, tu souffres, je le sens. Et puis, tu verras ça, les vices de monsieur ne s'en tiendront pas là. C'est toujours avec du sou de tabac qu'on commence. Et petit à petit, on double la dépense. On entre au café quelquefois par hasard. On y va tous les jours, et puis on rentre tard. La femme se dit confiante et crédule. Serait-il arrivé quelque accident à Jules? L'argent du ménage, en peu de jours, s'épuise. On en vient à vendre la chemise de sa femme. Et l'on met, cruelle extrémité, son dernier matelas au mont de piété.
Imperturbablement, je gardais le silence. Pour me faire sortir de mon indifférence, elle fit tant qu'enfin je lui répondis « Zut, zut !» Alors, elle bondit ainsi qu'une tigresse. Son œil lance du feu, son fou chignon se dresse. Elle blêmit, rugit, écume, rage, et me mordant enfin, elle assouvit sa rage. Je sentis par derrière une amère douleur qui me fit sursauter et maladroit au cœur. L'Évangile en ce cas nous dit « Tendez l'autre joue ». Je ne profitais pas du conseil, je l'avoue. Par un raffinement de la fatalité, son dentier, monsieur, dans la plaie est resté. Pour me débarrasser du trait diabolique, comme Éparminondas blessé d'un fer mortel, j'arrachai bravement cet instrument cruel. Dans ma juste fureur, loin de moi, je le jette. Il siffle dans les airs, tombe dans l'assiette d'un monsieur qui dînait au seuil d'un restaurant, entre dans le café en traversant les vitres, mord le nez d'un garçon en train d'ouvrir des huîtres, saute sur le comptoir, ricoche de nouveau et ne s'arrête enfin que dans un verre d'eau. Voilà, de mon malheur, l'histoire singulière. Mes jours sont en danger, je vais quitter la terre. Et qui donc aurait pu croire qu'un simple coup de dent aurait pour moi un jour un tel inconvénient? Mais puisqu'il est écrit qu'une telle blessure doit amener, hélas, une mort non moins sûre, eh bien, pour alléger les lenteurs du trépas, je m'en vais m'étouffer entre deux matelas. Je laisse une veuve et vous la recommande. En mariage, un jour, si l'aide vous la demande, qu'il muselle la mère où s'en est fait de lui. L'on guérit aujourd'hui les morsures des chiens, loups, tigres, panthères, mais on ne guérit pas celles des belles-mères.